d'inflation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys of a comedy of errors. You fellow with your fellows get played at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h04, c'est l'heure du Canu Info. Avec ce soir des scènes de liesse en Angleterre pour l'enterrement de Margaret Thatcher.
Et puis la légalisation du mariage pour tous en Nouvelle-Zélande.
Un nouvel incendie dans des campements de Rome. Deux nouveaux incendies d'ailleurs.
Ensuite, une info sur des maires qui balancent des sans-papiers.
Et puis, on aura un truc sur les facteurs qui sont en grève dans le 8e arrondissement avec un facteur invité dans ce studio même.
Et on achèvera ce Canu Info par la météo.
Alors, eh bien, oui, en tout cas, la sorcière est morte, elle est crevée il y a déjà quelques jours, mais en tout cas, elle a été enterrée aujourd'hui, avec un nombre hallucinant de flics, un nombre hallucinant d'invités, des sortes de funérailles complètement pharaoniques. Eh bien, on va d'abord revenir sur sa mort et sur l'effet qu'elle a pu produire, par exemple, dans la ville de Brixton.
Fuck the Tories, fuck Margaret Thatcher, and I look forward to her being worm food.
Mère de conservateur, mère de Margaret Thatcher, et j'attends impatiemment que son corps nourrisse les asticots.
Ghost town.
Je suis ici pour célébrer, jubiler, danser et m'amuser comme un fou en célébrant la mort de Margaret Thatcher. J'ai une bouteille de champagne à la maison que j'ai attendu de sabrer pour ce jour, et il est finalement arrivé. La plupart des médias ne vont pas faire entendre cette voix, ils vont donner la parole au pote de Margaret Thatcher. Murdoch pleure aujourd'hui, pas moi, je me rejoins. Un événement qu'on attend depuis des années. Elle a détruit toute l'industrie dans ce pays. Tout le monde est dans la misère. Les maisons sont vendues. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes de logement maintenant. Le système éducatif a été niqué. Pardon pour les gens. Elle représentait les banquiers, elle représentait les partisans de la guerre, elle représentait les gens qui soutiennent la cupidité. Je suis irlandaise et écossaise, ça c'est un argument. Nous sommes là pour célébrer sa mort, pour envoyer un message clair à tous les gens comme elle. Si vous vous comportez de cette manière, non seulement nous célébrerons votre mort, mais nous l'accélérerons peut-être. Je me rappelle, ici à Brixton en 90, les gens ont manifesté dans la rue et ils se sont débarrassés de Thatcher. Ceci est un avertissement à Cameron et Clegg. Nous sommes après vous aussi. Si George Osborne continue avec ses coupes, sa tête va peut-être se retrouver sur un poteau à Brixton et il célébrera sa mort aussi.
Might be resting on a pole in Brixton. We'll be celebrating that bastard's death as well.
Si les avantages sociaux continuent comme maintenant, ça revient à la même vieille histoire où il n'y a aucune considération pour les personnes, les communautés, les familles. J'ai juste envie de dire merde aux conservateurs, merde à Margaret Thatcher, et j'attends impatiemment que ce record nourrisse les asticots. T'es une hideuse dégoûtante excuse pour un être humain, et je suis tellement heureuse que tu sois morte.
Et voilà, ça c'était donc au moment où Margaret Thatcher est morte, et aujourd'hui elle a été enterrée, et pour l'occasion nous avions une envoyée spéciale en Angleterre.
Je suis à Sheffield, qui est dans le nord de l'Angleterre. Et du coup, je pense que c'est assez particulier parce que le nord de l'Angleterre était le plus fortement frappé par toutes les politiques de Maggie Thatcher. Et du coup, les gens un peu partout dans le pays vont fêter son enterrement ce soir. Mais elle est morte le 8 avril, du coup, il y a quelques jours. Et depuis sa mort, les gens font des fêtes un peu et au moins des rassemblements dans des centres-villes. Surtout à Liverpool, à Brixton, à Londres, dans des pays tickets. Après, aujourd'hui, par exemple, les gens ils meurent plus jeunes que la moyenne en Angleterre. Il y a des entrepôts en centre-ville qui sont juste abandonnés. Mais il y a quand même, ça se voit vraiment en Angleterre, en fait. Et du coup, quand les gens ils prennent la parole pour parler de Maggie et son règne et son pouvoir, on parle beaucoup de honte. Et qu'elle devrait avoir la honte de ce qu'elle avait fait. Ding dong, the witch is dead. The wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. Rub your eyes, get out of bed. Ding dong, the wicked witch is dead. Pour tout ce qui est historique, les gens, ils s'expriment très fortement. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, ils ont une monarchie et du coup, toutes les familles de l'aristocratie, ils ont encore de la pouvoir politique réel parce qu'en Angleterre, il y a « the House of Lords ». Et pour avoir une place dans « the House of Lords », il faut être né d'une famille de l'aristocratie. Et du coup, quand elle a pris le pouvoir en 1975, elle a été nommée. Et du coup, dès lors que tu as un titre de l'aristocratie, tu as une représentation dans cette House of Lords. Et du coup, eux, ils ont absolument un politique pouvoir. Et du coup, eux, ils peuvent, par exemple, arrêter des propositions de Parlement. Elle était, jusqu'à sa mort, représentée. Et du coup, maintenant, son place dans ça, elle est transmise à ses deux enfants. Mais aussi, il faut aussi dire qu'en 1970, ses politiques étaient tellement controversées que son propre parti politique à elle a demandé son démission. Je pense aussi qu'en Angleterre, les gens ils voient vraiment Maggie Thatcher comme le symbole. Comme je pense que les gens ils fêtent ce soir aussi quelque chose de symbolique, qu'avec elle et toutes ces politiques qui étaient lancées il y a 30 ans, qu'on est toujours sur les mêmes voies et sur les mêmes pistes. Et du coup, c'est systématiquement les mêmes gens dans les mêmes situations qui sont paupérisés, et c'est les mêmes gens qui sont quand même enrichis par ce système. Bah, par exemple, en Angleterre aujourd'hui, Google et Starbucks ne paient pas d'impôts du tout. Et les gens, ils se fâchent pour ça, mais pas énormément. Et du coup, ça, c'est aussi une revendication que les gens, ils veulent se rassembler et fêter son enterrement ce soir pour envoyer un message assez clair à des gens qui occupent des places politiques aujourd'hui pour leur dire, écoute, on est toujours ici, on en souffre. Et on en souffre, peut-être c'est un peu fort ça, mais pour envoyer un message à ces gens qu'ils devraient faire attention et que les petits peuples sont en train de regarder attentivement qu'est-ce qui se passe, et il exige vraiment des changements des politiques, parce que les politiques depuis 30 ans de plus en plus libérales ont eu des conséquences directes et très néfastes pour beaucoup de personnes, surtout dans le nord de l'Angleterre. Alors, ce qui est un peu intéressant, c'est aussi qu'on peut voir que la France fait son parallèle, peut-être pas aussi explicite ni aussi avancée que l'Angleterre, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dedans pour des gens qui écoutent cette petite émission ce soir. Du coup, avec ça, à réfléchir, moi je vais aller faire la fête en centre-ville ce soir avec tous mes camarades anglais, mais aussi des étrangers quand même. Je vous souhaite une bonne soirée. Mabel, je suis à Sheffield, Radio Canu.
Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est la chanson qui a fait polémique à l'occasion de cette mort et enterrement de Thatcher, vu que plein d'Anglais se sont mis à, je pense, l'acheter en fait pour la faire monter dans les charts, de façon à ce qu'elle soit diffusée aujourd'hui par la BBC. Et donc effectivement, elle est tellement montée que la BBC qui diffuse le hit parade devait la diffuser. Et donc il y a eu toute une gigantesque polémique pour savoir est-ce qu'il la diffuserait ou non, sachant que c'était des gens qui manipulaient les ventes exprès pour nanana. Bon, il semble que finalement ils aient décidé de la diffuser avec ce magnifique argument qui est que Margaret Thatcher n'a pas lutté toute sa vie pour la liberté et contre le communisme pour en arriver à un pays où on censure une chanson. Et donc, même si le directeur de la BBC a déploré le fait que c'était du plus mauvais goût, et ben a priori elle devrait être diffusée aujourd'hui.
Peut-être que ça compte aussi que Margaret Thatcher a toujours détesté la BBC et leur a mis un peu des bâtons dans les roues parce qu'ils étaient considérés comme gauchistes.
Eh bien, peut-être, oui.
Ding dong, the witch is dead.
Aujourd'hui, mercredi 17 avril, la Nouvelle-Zélande est devenue le 13e pays dans le monde à légaliser le mariage homosexuel. C'est aussi le premier pays dans la région Asie-Pacifique qui légalise ce type d'union. Donc c'est une décision historique qui est célébrée par de nombreuses fêtes dans la communauté gay en Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Donc, tout le monde fait la fête. Les gens, ils font la fête en Angleterre parce que Thatcher, elle est morte. Les gens, ils font la fête en Nouvelle-Zélande parce que le mariage pour tous est légalisé. Et pendant ce temps, en France, eh ben, comment ça se passe ? Le texte doit repasser, le texte pour le mariage pour tous doit repasser à l'Assemblée en deuxième lecture à partir d'aujourd'hui. Donc ça a commencé là en début, milieu d'après-midi. Donc pour rappel, il avait été adopté en première lecture à l'Assemblée il y a un peu plus d'un mois, peut-être deux, et puis après il a été adopté par le Sénat. Donc voilà, la deuxième lecture c'est aujourd'hui, et la décision finale, le vote final, il devrait intervenir mardi prochain. Alors, étant donné que la première lecture à l'Assemblée, ça avait mis des plombes et des plombes parce qu'il y avait tout le truc où il y avait un 1800 amendements, là, enfin je ne sais plus le nombre exact, mais il y avait plein d'amendements qui avaient été déposés et que du coup ça avait pris des plombes, là ils ont balisé en disant qu'il n'y aurait que 25 heures de débat. Donc il y a un contexte toujours plus fort de tension toujours plus forte autour de ce projet. Donc les anti-mariage pour tous, la bande de la manif pour tous, donc ils font des actions tous les jours. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, c'était l'action camping pour tous devant l'Assemblée, mais c'est juste, enfin bon, ça commence à être du grand n'importe quoi, enfin c'est juste c'est
une tarte dans la gueule pour tous, ouais.
C'est râler pâquerette. Donc là, en fin d'après-midi, il y a eu un rassemblement à Lyon devant le PS pour dire non au mariage, etc. Et donc, en fait, c'est toute une génération de droite qui se construit autour de l'opposition à ce projet, avec pour seule référence politique les manifs pour la défense de l'école privée en 1984. C'est juste désespérant. Et donc, en fait, là, il y a à peu près il y a deux élus de l'UMP. C'est, entre autres, je crois, deux élus qui ont voté pour le texte du mariage pour tous qui essayent d'inciter Copé à avoir un message de dire qu'il faut calmer le jeu, etc. Et en fait, Copé, il n'est pas du tout là-dedans. Il dit non, moi, j'incite l'UMP à maintenir la pression parce que c'est quand même pas du possible. Parce qu'on est... parce que le désordre, c'est le gouvernement qui le met. Parce qu'on est dans un pays où quand le peuple est dans la rue, on l'écoute pas, etc., etc. Enfin bon, je vais pas...
Bah ça, il a quelques raisons de le savoir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Donc en fait, voilà, ça craint à fond ce qui se passe et c'est scandaleux et que du coup, c'est très bien que les gens ils aillent manifester. Donc les anti-mariage pour tous, ils ont prévu une manifestation le 21 avril. C'est dimanche, hein, je crois, samedi ou dimanche. Et donc, du coup, voilà, puisqu'ils ont une manif ce week-end parce que le vote sera mardi. Donc voilà. Copé incite l'UMP à maintenir la pression, ça promet de beaux débats. Et je pense que ça va toujours voler aussi haut. Et voilà comment ça se passe en France. Et je sais pas comment ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, mais alors je sais pas si nous on va y arriver un jour, mais bon, voilà.
Hier, dans la nuit, deux campements de Rome ont pris feu. L'un était en Seine-Saint-Denis et l'autre était à Montreuil. Celui de Montreuil a eu lieu dans une friche où les personnes avaient trouvé refuge et faute de solution proposée par quiconque, les familles se sont réinstallées ce matin dans cette même friche. Pour celui à Stain en Seine-Saint-Denis, l'incendie a ravagé 1500 m² sur les 3000 m² du campement. 180 personnes se sont retrouvées dans une situation bien pire qu'avant, sans que personne, ni la mairie ni la préfecture, ne leur propose de solution. L'origine de ces deux camps a été déclarée comme accidentelle. On constate quand même que le nombre d'incendies de campements a quand même gravement augmenté ces temps-ci. Avec ces augmentations là quand même, on a du mal à pas avoir un espèce de doute sur si c'est à chaque fois quand même dû à des accidents, ou si de toute façon la police n'allait pas mettre non plus de gros moyens pour enquêter et s'assurer que ce soit bien la piste accidentelle qui soit bien vérifiée. Et du coup, en cherchant un peu plus d'infos sur ces incendies, je suis tombé sur un groupe politique qui partageait un peu mes doutes. Bah, sauf que...
Quel est ce groupe politique ?
Bah, sauf qu'il s'agissait du Front National. Alors, ça te fait poser quand même pas mal de questions sur toi-même. Mais quand même, ils se sont fendus d'un communiqué de presse pour parler de ces incendies à répétition. Il trouve que, et là je les cite, statistiquement, la thèse de l'origine accidentelle devient extrêmement douteuse. Bon, alors douteuse, je sais pas, mais en tout cas, on peut effectivement se poser la question. Mais quand on lit un peu plus loin, eh ben, on peut lire cette phrase qui dit que Marine Le Pen, ou, qui dit qu'en gros, Marine Le Pen va balancer, qui, oh, pardon, je me perds complètement. En gros, elle dit qu'on ne peut s'empêcher de penser que ces mystérieux incendies sont volontairement déclenchés pour contraindre les autorités à reloger gratuitement les Roms. Autrement dit, le Front National pense que c'est les Roms eux-mêmes qui incendient leur propre campement. Alors voilà, c'est une thèse quand même pas mal. Bon, quand même, comme pour préciser, les gens ne risquent pas de faire ça parce qu'ils risquent quand même de mourir ou de voir mourir leur famille ou leurs amis. Et au mieux de quand même de ce que les gens peuvent espérer après avoir eu leur chez soi qui a cramé, c'est 2 nuits d'hôtel ou être remis à la rue direct. Donc en général, c'est quand même pas mieux que ça. Et bah voilà, en tout cas, ça, ce que ça va permettre, c'est qu'on va pouvoir rajouter ça aux différentes rumeurs sur les Roms. Alors entre le mendiant qui s'était lui-même coupé une jambe pour pouvoir gagner plus en faisant la manche, en gros, il était passé de 1 euro à 2 euros par jour, ça valait le coup. Maintenant, les gens vont dire, tu connais la dernière technique des Roms pour avoir 115 mètres carrés tout frais payé en centre-ville ? Ils foutent le feu à leur propre campement. Alors, si vous êtes sans papier et que vous êtes sur le point de vous marier, ou si vous connaissez des personnes dans cette situation, alors écoutez bien ce qui va suivre, surtout si vous habitez dans la région. Alors, voilà, tout le monde le sait, un mariage mixte, c'est la galère. Et une des premières étapes dans ce parcours du combattant, c'est de déposer un dossier à la mairie de votre quartier. Là, dans ce dossier, l'agent de mairie voit forcément dans le dossier si une des personnes est en situation irrégulière ou pas. Et ben, dans plusieurs mairies, la consigne est donnée de faire remonter au procureur chaque dossier où une personne est en situation irrégulière. Et ben, du coup, il s'agit bien là de zèle quand même, et pas du tout de règles, parce qu'il n'y a aucune loi qui oblige les agents de mairie ou les maires à faire ce sale boulot. Le collectif des amoureux au banc public trouve et dit que cette pratique est complètement interdite, et elle dit le signalement systématique au procureur au seul motif que le ou la future mariée est en situation irrégulière pourrait porter atteinte à la liberté du mariage, comme l'avait souligné le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ces agissements systématiques pourraient être considérés comme une infraction pénale et comme une discrimination. Et ben, dans le Grand Lyon, quelle mairie on retrouve comme ayant ces pratiques ?
Attends, on va jouer.
Peut deviner, ouais.
Des mairies de droite.
Charbonnières. Alors, c'est Sainte-Foy.
Lyon ?
Alors, vous avez dit quoi, Charbonnières, Lyon, Sainte-Foy ? Non, il y en a pas dans Lyon même. C'est que des, périphérie.
Écully.
Non.
Dardy.
Non.
Pierre Bénite.
Marcy-l'Étoile.
On a Pierre Bénite. Qui n'est pas une mairie du Front National ni UMP, qui est une mairie communiste tenue par Mireille Domenech Diana. Alors à force quand même, parce que ça fait 3 canuts info où quand même je parle des communistes en mauvais termes, j'ai rien personnellement contre eux, sauf que là quand même ils s'abusent vraiment.
Ah, Vénisieux.
Non, c'était à Pierre Bénite, la mairie communiste. Mais la deuxième, bon, par contre.
La deuxième, il n'y a pas Vénissieux aussi ?
Non, c'est Caluire. Pas Vénissieux.
Caluire,
c'est ça.
Caluire, c'est quoi ?
Caluire, c'est Philippe Cochet, UMP.
Celui qui a armé la municipale ? Ah
ouais. C'est ça, qui est quand même. C'est UMP bien, bien droite, quoi. Et ben voilà.
Et là, on se rend compte qu'on n'a ni Saint-Cyr au Mont-d'Or, ni Saint-Didier au Mont-d'Or. Et pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les maires seraient. Tu as une réponse.
Je sais pas, parce que je me dis que les maires ils sont trop cool à Saint-Cyr au Mont-d'Or.
Eh bien non, c'est parce qu'il n'y a jamais un sans-papier qui s'est approché de ces communes à moins de 500 mètres.
Et ben maintenant, on va écouter une interview de personnes de la Poste du 8e qui sont encore en grève depuis 3 semaines. On les a rencontrées hier et voilà ce qu'ils nous ont dit.
Ah, à la poste du 8e rue Beauvisage avec Clément et Dominique de la CGT de la Poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on rentre dans notre troisième semaine de conflit face au mur qui est la Poste au niveau de nos revendications, au niveau de l'écoute qu'ils ont de nous. On est obligé de continuer le mouvement. On demande à chaque fois d'avoir une nouvelle proposition qui irait un peu plus dans notre sens. Chaque fois, on se heurte à des propositions qui sont totalement inacceptables, donc le mouvement continue. En plus de ça, aujourd'hui, il se trouve que le mouvement a enflé de par les non-grévistes qui ont rejoint le mouvement aujourd'hui, de par d'autres arrondissements qui sont également entrés en mouvement de grève aujourd'hui et qui nous ont rejoints sur piquet de grève, donc ça nous conforte dans notre position de devoir continuer la grève, et le sentiment d'unité qui se dégage fait qu'on est encore renforcé dans notre conviction, là-dessus il n'y a pas de problème. Il y a également Olivier Besancenot qui est venu nous voir aujourd'hui, qui nous a fait part son expérience, qui nous a également réconforté dans notre action, il nous a dit que allez-y les gars, continuez, donc tout ça rajouté à tout ce qu'on vit, donc on lâchera rien et on ira jusqu'au bout. Et également hier, il y a un sénateur Fischer qui est venu nous voir, pareil, qui nous a fait part de son soutien au nom du Parti communiste. Donc voilà, il a été vice-président du Sénat, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc notre combat est d'autant plus légitime puisqu'il est reconnu par d'autres.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus en détail justement le combat, sur quoi depuis trois semaines vous faites grève ? C'est quoi vos revendications principales ?
Les revendications principales, ce sont l'arrêt des suppressions d'emplois, puisque la Poste, elle, communique sur le fait qu'il ne supprime pas d'emploi puisqu'il ne renvoie personne, mais il supprime des positions de travail. Donc pour nous, c'est des emplois qui disparaissent, des emplois potentiels pour des chômeurs ou des gens qui arriveront dans la vie active qui disparaissent. La préservation de notre vie privée, de par le fait de pouvoir garder deux samedis de libre sur neuf, ce qui est déjà pas extraordinaire, mais on est obligé de se battre pour ça. La qualité de notre vie professionnelle, pour avoir des tournées qui arrêtent de s'allonger, donc qui nous exposent à des dangers de la route, à des intempéries, à du courrier en plus, à une charge de travail qui n'est non reconnue, qui s'appelle la mutualisation, où on fait la part des travails des absents gratuitement, et ça, ça n'apparaît nulle part dans les bilans des tournées. Et surtout, préserver la qualité du service rendu aux usagers, qui est quelque chose aussi d'important à nos yeux, puisque depuis des années, ça va en se dégradant. Il n'y a qu'à interviewer les usagers dans la rue qui ne reconnaissent plus leur poste. Et si on n'arrête pas ça, ça va aller de pire en pire. C'est que bientôt à la Poste, parce que le problème, c'est que notre direction nationale a des exemples de postes étrangères quasiment uniquement faites d'emplois précaires. Et tôt ou tard, ils en arriveront là. Donc ça, nous, on dit stop. Et si on dit pas stop maintenant, une fois que ça sera en place, ça sera foutu, on ne pourra plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'on est en lutte dans notre troisième semaine et qu'on lâche rien, on ira au bout, parce que de toute façon, le mouvement va s'amplifier.
Et c'est uniquement les facteurs qui sont en grève, ou est-ce que y a d'autres services qui sont en grève dans votre poste ?
Là, il y a 70% des facteurs donc qui sont en grève. Donc c'est quand même le service distribution le plus touché par les restructurations. On a eu la cabine qui traite les recommandés, qui également nous a suivis au début du conflit. On a également le service motorisé voiture, donc qui amène les colis, enfin certains colis et les sacs de dépôt des facteurs, qui a également rejoint le mouvement pendant un temps. Mais bon, ils peuvent difficilement faire plus. Ça, on le comprend. Il y a des gens qui font pas grève. C'est pas par manque de conviction, c'est par manque de moyens. On peut difficilement argumenter contre, puisque chacun a des impératifs familiaux qui font qu'on peut pas tout se permettre. Et c'est la direction en joue, puisqu'ils jouent sur le pourrissement du moment, étant donné que la petitesse de nos salaires, ils savent très bien, enfin ils pensent qu'on ne peut pas tenir. Je dis bien ils pensent, parce qu'ils savent, non, ils savent pas, ils se trompent. Donc on leur prouve par là qu'on tient et que maintenant on n'est plus à un jour de grève près, malheureusement, et qu'on ira au bout jusqu'à obtenir ce qu'on a demandé au départ.
Et au niveau de la direction, justement, c'en est où au niveau du dialogue ou du pseudo-dialogue ? Enfin,
tu fais bien de parler de pseudo-dialogue parce que c'est de ça dont il s'agit. On accepte de nous recevoir. On a dû faire le forcing parce que la première semaine, évidemment, on n'a rencontré personne. On a dû faire le forcing au niveau de la direction régionale en se manifestant d'une manière plus ou moins bruyante en bas. Ils acceptent de nous recevoir. On a été reçus. On a eu quasiment le copier-coller au niveau des propositions de ce qui nous était proposé au niveau de notre direction locale. On a continué donc les demandes d'audience. On a continuer à demander le forcing, enfin faire le forcing pour obtenir une réunion qu'on a eu à chaque fois, et à chaque fois on a la même réponse. Maintenant ils se déplacent ici, ils sont venus aujourd'hui encore pour nous dire on vous fera une proposition que nous on estimait acceptable vu ce qu'on avait refusé auparavant. Ils sont arrivés avec strictement les mêmes propositions qu'on a eues la semaine dernière, les semaines d'avant. Ils nous prennent pour des imbéciles. Alors ils viennent avec toute une série d'explications économiques et tout qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'accepte pas et qui de toute façon est complètement falsifiée par leur titre petite magouille à porter du courrier dans les centres, dans d'autres centres que le nôtre pour justifier une baisse de courrier qui manquera pas de revenir chez nous une fois que la restructuration sera mise en place. Et ça, c'est pas possible. On a déjà eu l'expérience par le passé. Voilà, on chat échaudé craint l'eau froide. Donc il est hors de question qu'on morde encore à ce genre de mensonge, quoi. Parce que là, il s'agit de mensonge maintenant. On peut pas dire autre chose. Ils nous mentent volontairement, ils nous trompent volontairement. Ils s'imaginent qu'on va mordre à leurs arguments, mais ils se trompent. Voilà, c'est pas possible, quoi. Là-dessus, on dit stop.
Je voudrais juste rajouter qu'il y a du gros foutage de gueule au niveau des restructurations qu'on vit à la Poste, de par le fait que la direction nous dit que c'est nécessaire à la productivité et aux bénéfices que peut faire la Poste. Il faut savoir quand même que la Poste, elle fait 437 millions de bénéfices par an. Et en ce moment, on est en lutte et on a un huissier qui vient tous les jours sur notre piquet de grève pour voir si ça se passe bien et si tout est fait dans les règles. Il faut savoir qu'il est payé à plus de 500 euros la journée. Nous, on demande des fois des primes ou des trucs comme ça, on a rien, quoi. On ne prend vraiment pour des cons. Et en plus, ils font distribuer le courrier par un centre d'entraide, donc par des intérimaires, des contrats précaires, au nom du service public. Alors que, en fait, c'est pour casser la grève et pour démotiver les troupes, quoi. Voilà. Parce que nous, on essaie de faire porter le message, malheureusement, par la grève. Donc, on est obligé d'atteindre les usagers, qui, heureusement, sont avec nous et nous soutiennent tous les jours. Donc, ça, c'est bien. Mais ils embauchent des contrats précaires. Et le service public, c'est une connerie parce que les intérimaires, ils connaissent pas le boulot comme nous, on peut le faire. On a l'expérience d'années de facteurs, quoi. Les usagers payent des expéditions, elles ne sont pas suivies, il va y avoir des plaintes, les recommandés sont avisés d'office, c'est-à-dire que les gens sont obligés de venir se déplacer pour aller les chercher alors qu'ils sont là, même les entreprises.
En fait, leurs arguments concernant la soi-disant service au public en envoyant le courrier à des emplois précaires, mais ils le détruisent, le service public, en faisant ça, puisque le courrier se retrouve balancé dans des allées en liasse complète que les gens retrouvent, donc je ne vois pas en quoi ils arrangent le service public, ni même l'image de la Poste, encore moins l'image des facteurs. Heureusement, les usagers ont l'intelligence de faire le distinguo entre les gens qui passent occasionnellement et les gens qui passent régulièrement, mais voilà. Et en fait, ils se tirent une balle dans le pied en faisant des trucs pareils, donc on comprend vraiment pas leur entêtement à payer des gens plus cher que nous, et tant mieux pour ceux à qui ça permet de travailler. Ouais, tu vois, on a au moins cet aspect-là positif du conflit, c'est que ça permet à des gens qui n'auraient peut-être pas eu cette occasion, on va dire des emplois précaires, qui ont besoin de vivre aussi, de travailler un peu. Ils font ce qu'ils peuvent, donc on leur jette pas la pierre. Ils ont l'occasion d'avoir du boulot, on va pas leur reprocher. Malgré le fait que nous, ça nous arrange pas, puisque ça fait distribuer de courrier et ça casse l'image du service public. Ils ont également mis un vigile, ils payent un vigile, ils préfèrent payer un vigile ici qui intercepte les gens qui viennent se plaindre plutôt que nous écouter et écouter nos revendications. Il y a aussi une chose qui est importante, enfin qui peut pas sembler importante mais qui est quand même marquante, c'est qu'on nous parle d'une logique économique. À Pâques, tous les deux de France ont eu comme belle œuvre de Pâques une C4 neuve, bien entendu, à climatisation. Alors elle a estampillé Poste, évidemment, un tout petit estampillé. C'est pas une voiture commerciale, c'est une voiture 4 portes avec carte essence et tout ce qui s'ensuit. Donc on arrête de nous bananer, de nous bassiner avec des problèmes économiques. Rien que sur l'eau, il y en a eu pour 300 000 euros, quoi. Donc ça, voilà, ils apportent de l'eau à notre moulin sans s'en rendre compte. Donc là, voilà, on peut plus. C'est accepter ce qu'ils nous disent, ça serait vraiment courber les chines et devenir un troupeau de moutons qu'on emmène paître dans le pré où on veut, comme on veut, quoi. Et ça, nous, on choisit l'air qu'on broute et c'est pas celle qui veut nous donner.
Est-ce que, parce que là, c'est pas votre premier plan de restructuration que vous subissez actuellement, est-ce que vous sentez des changements au sein de l'ambiance dans les différentes équipes et dans les différents secteurs? Est-ce que vous sentez que le climat est plus tendu entre les gens ou...
Non, justement, c'est l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est très solidaires entre facteurs. On n'a pas les différences ou les griefs qu'il y a dans d'autres centres entre facteurs, parce que la Poste met tout en œuvre dans son règlement pour que les gens, dans les équipes même, se retournent les uns contre les autres. Par exemple, en indexant une prime supposée sur les maladies, donc quand tu as quelqu'un qui arrive dans un secteur qui est malade, ils espèrent que les autres disent « Ouais, on en a marre que tu sois malade », et pour créer un truc, de manière à ce qu'on sait ce que c'est, diviser pour mieux régner. C'est une chose, la chance qu'on a, c'est que ça n'a pas lieu ici, ça n'a pas cours, heureusement. Mais c'est pas le cas de partout, il y a des endroits où ça marche et c'est une catastrophe. Et c'est le cas parce que après, plus personne ne veut se battre avec personne, puisqu'on dit non, moi je me battrai pas avec lui parce que lui c'est un con, ce qu'il m'a reproché ici, ça. Donc la Poste, elle a tapis rouge pour imposer ses restructurations. Donc heureusement, ça n'a pas cours chez nous et ça c'est quelque chose d'important. Et quant aux restructurations précédentes, chaque fois également, on est parti en mouvement. Par pareil massivement, mais avec quand même une grève moins longue à chaque fois. Mais chaque fois, on a dû partir en grève pour obtenir des choses. D'ailleurs, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que tout ce qu'on demande là, 2 mois avant la grève, on a demandé des audiences, on a été reçus, on a avancé nos revendications. On a dit, voilà, ça serait bien qu'on en discute avant d'éventuellement entrer dans un préavis. Mais pour eux, ils prennent ça pour de la faiblesse. Donc, résultat, on s'est retrouvé à discuter, ils nous écoutaient, mais ils se foutaient éperdument, ils ne faisaient aucune contre-proposition. Il a fallu qu'on rentre en grève massivement pour qu'ils commencent à faire semblant de nous écouter. J'ai bien faire semblant parce qu'au début, c'était vraiment du foutage de gueule. Ça l'est encore, mais un peu moins. Et je pense qu'avec la manière dont le conflit commence à s'enfler, ça va être de moins en moins du foutage de gueule, même si on en est encore là. Mais on va mettre tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour se faire entendre et surtout se faire respecter. Ça, là-dessus, on lâchera rien et il faut bien qu'il se dise. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, on lâchera rien. Malheureusement, on vit dans une société actuelle où on ne peut plus rien lâcher, sinon on va devenir... voilà, on va retourner aux années 30 au niveau du droit du travail des travailleurs, quoi. C'est pas possible, quoi. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. On voit ça, on dit, mais attends, on a fait tout ça pour rien, quoi. Il y en a qui sont morts pour avoir ce qu'on a. Et à cause de gens comme ça, et il n'y a pas qu'à la poste, on va se retrouver avec des situations de travail qui seront complètement d'une autre époque, quoi. Donc c'est pas possible, ça, faut que ça s'arrête. Et c'est pareil dans toutes les boîtes.
Du coup, comment vous voyez la suite, genre demain, après-demain, la semaine qui vient? Est-ce que vous avez des actions de prévues ou...
Vu qu'on se heurte à un mur au niveau de la direction, on a décidé de durcir le ton nous aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de rassembler plusieurs bureaux. Voilà. Tous les bureaux ont les mêmes problèmes que nous, tous les facteurs, ils ont les mêmes problèmes que nous. Au niveau des réorganisations, c'est partout pareil, on leur fait des diagnostics bidons, on leur dit qu'il y a tant de courriers en moins et qu'il faut qu'ils suppriment des tournées. Donc maintenant, on essaie de porter le message que nous, ça fait 3 semaines qu'on est en grève, que c'est possible. On essaie de faire rejoindre des bureaux des arrondissements de Lyon avec nous.
J'ai l'heure, que le missile rentre dans la machine, m'arrache à mes emmerdes. J'ai l'heure, qu'ils ne pourront pas fliquer mon anarchie. J'ai l'heure, je suis trop à cran pour me formater, tu captes que je suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap. J'ai l'heure, ça vient du 13, MARS pour les villes en détresse, anti-système, les miens m'ont dit ma soeur, mais dis-leur qu'on les crève. J'ai l'heure, j'aurai le poing levé jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. C'est l'heure de choisir son temps, la liberté d'expression en cabane. J'ai l'heure, j'en ai rien à péter des stars, marginal à la plume, énervé, s'il te plaît, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec un haut-parleur, j'ai l'heure qu'on croit en la justice du ciel et pas en la leur. J'ai l'heure, je suis pas celle qui ne pense qu'à rafler. J'essaye de filer de la force par la foi, pas facile, avec un cœur pas la frais. Mon rap continue d'avancer sans une esquive, le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice, insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure, c'est le chant des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice, insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure, c'est le chant des oubliés qui ne veulent plus être passifs. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure car mon rap on est assis. J'ai l'heure, mon rap est un appel à résister. J'ai l'heure, j'appartiens qu'à mes idées, irrécupérable, c'est plus que décidé. J'ai l'heure que je me fous de leur médaille et de leur galon, que mon rap est ma cam, seulement si mon cœur est mon garrot. J'ai l'heure, c'est trop tard pour désamorcer l'engin qui vole au-dessus de Babylone, représentant la rage des sœurs et des frangins. Tous les oubliés du monde tapant derrière les portes verrouillées, parfois l'envie de tout piller nous manque. J'ai l'heure, le thermomètre a pété dans l'incendie, élevé dans la violence. J'ai l'heure qu'on a bien senti, j'ai l'heure que mon rap est ma revanche. J'envoie le missile dans la machine avec la folie de croire qui lui explosera dans le vent. J'ai l'heure que c'est ma seule raison de sauter dans le vide, que j'atterris, ce sera avec la rage du peuple dans le beat. J'ai l'heure, je m'en vais flinguer les sentinelles. Appelle-moi la Marseillaise, plus révolutionnaire que ton chant sanguinaire. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice, insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure, c'est le chant des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice, insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure, c'est le chant des oubliés qui ne veulent plus être passifs. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure car mon rap on est assis. J'ai l'heure, c'est sincère dès lors que ma plume s'exprime, rage ancestrale. J'ai l'heure que le rap a perdu ses esprits. J'ai l'heure, je me fous de la tendance et de ce que les gens disent, que je me fous de leurs contrats, que je reste libre comme l'air. J'ai l'heure que c'est mes tripes, que je te sers avec du style, que même signé en maison de vie, viens tirer sur ton industrie. J'ai l'heure, je fermerai pas ma gueule. J'ai l'heure, j'oublie pas pourquoi je bosse, ni pour qui, encore moins contre. J'ai l'heure que j'oublie rien. J'ai l'heure que je reste sur ma rive, heureuse de faire stresser les fils de chiens qui insultent ma ville. J'ai l'heure, j'oublierai jamais d'où je viens. J'ai l'heure, peu importe ce qui m'attend, ce qui m'accueille, je marcherai vers ma vérité. J'ai l'heure que si la vie me réserve la gloire, j'ai pas trop hâte. Laisse-moi dans mon maquis, car movie pop est bien trop hype. J'ai l'heure que j'avance là où les traîtres rechignent. Si t'es dame, fais tourner le son, moi cherche le nombre et pas le chiffre. J'ai l'heure, pas le chiffre, pas le chiffre. Killer, je reste fidèle à mes engagements. Killer, je reste libre comme l'air. Killer, j'oublierai jamais.
Ce soir, on reçoit Francis de La Poste. Alors, Francis, est-ce que tu peux te nous dire un peu où est-ce que, dans quel poste tu bosses déjà? Parce que là, on vient d'écouter un facteur qui est en grève dans le 8e et nous donner un peu des nouvelles de ton secteur.
Eh ben, ok, très bien. Eh ben, alors moi, je bosse à Bellecour, donc à Lyon RP, la recette principale, ça veut dire. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Et là, c'était la première fois que je voyais une grève comme ça. C'était vraiment, c'était super bien pour moi. Du coup, en fait, l'histoire, c'est que donc ils sont à leur 16e jour de grève, là, les postiers du 8e, pour des revendications qui peuvent être, comme il l'a dit, communes à tout le monde. Et le mardi, donc hier matin, a été décidé que nous, on essayait de se lancer dans la grève, dans la roue des postiers du 8e, pour grossir le mouvement, pour que ça fasse tache d'huile et tout ça, et peut-être que ça se répande dans tous les bureaux de poste de Lyon, et après, peut-être dans tout ceux de France et tout ça. Et du coup, on a décidé de partir sur les mêmes revendications qu'eux, et les suivre. Donc, à 5h30 du matin, une partie de moi et mes collègues, moi un petit peu plus tard, mais des collègues à moi étaient déjà au piquet de grève pour attendre les gens qui voulaient rentrer. Et là, il y a eu, moi, depuis 10 ans que je travaille, j'avais jamais vu autant de grévistes de chez nous. Donc voilà, donc ça c'était super, ça faisait super plaisir et tout ça. Et ensuite, au bout de, je pense, à 6h30, on a reçu un coup de fil des postiers du 4e, qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils étaient aussi en grève, et ils sont venus rejoindre notre piquet à pied. Voilà, ensuite on a un petit peu gueulé sous le bureau du chef pour qu'ils reçoivent quelqu'un du 4e. Et puis ensuite on est allés tous ensemble rejoindre les postiers du 8e pour faire grossir le piquet. Et oui, si, monsieur, oui.
Et ça a été quel accueil pour les facteurs du 4e là, auprès de la direction?
Oui, parce que oui, effectivement, il y en a, nous, c'est là où il y a la direction, là où on bosse, il y en a effectivement qui sont allés rejoindre avec nous les postiers du 8e, et il y en a qui sont restés voir la direction. Et l'accueil, ils ne se sont pas fait accueillir déjà par la personne qui ils voulaient parler, ils se sont fait accueillir par un espèce de sous-fifre, je pense, et qui leur a dit, d'ailleurs on ne sait même pas ce qu'il leur a dit, mais vraisemblablement comme d'habitude, merci, au revoir, dégagez, je ne peux rien pour vous. Voilà. Mais d'ailleurs, ceux qui sont restés, nous, on leur avait dit, hein, venez avec nous au 8e, c'est pas la peine d'attendre un guignol, là, puisque de toute manière, ils ont tout le temps la même tactique. Ils disent, il descendra dans 10 minutes, puis ils disent ça toutes les 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils envoient effectivement un guignol qui leur dit, voilà, dégagez. Bon.
Ça, c'est le dialogue social à La Poste.
Voilà. Ensuite, arrivé au 8e, on a vu notre collègue de Neuilly, Olivier Besancenot. Voilà, on discutait du prix du café, on est rentré dans le bureau de poste, on voyait les chefs du bureau qui étaient là, qui étaient stressés comme ça, et qui disaient « Sortez, vous avez 5 minutes pour sortir !» Alors du coup, les gens, ils commençaient un petit peu à taper sur les casiers et tout ça, voilà, c'était le truc rigolo, mais après, finalement, on est sortis, hein, parce que les gens sont quand même civilisés. Et, ah oui, et ce que je voulais préciser aussi, c'est que une fois qu'on est arrivé à Lyon 8e, on a rencontré qui ? Des postiers d'Ardilly, qui s'étaient mis aussi en grève. Et voilà. Et ensuite, on a réussi à convaincre les gens du 8e de venir soutenir notre piquet pour le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin. Et donc, qu'on continue à la grève. Donc, ils sont venus. En ce qui nous concerne, nous, on était... Ah oui, et je tiens à dire que, pardon, les postiers de Lyon 4e qui sont venus nous rejoindre à pied, ils étaient 92% en grève.
Bon, oui.
Ouais, c'est-à-dire que ils étaient, je pense qu'ils étaient une dizaine, hein, parce qu'ils sont pas nombreux à bosser là-bas. Et voilà. Et du coup, ce matin, suite à la faible mobilisation de nos collègues à nous, malgré qu'il y ait énormément de monde devant le bureau pour le piquet de grève, moi j'avais jamais vu autant de facteurs sur ce piquet. Je pense que en nombre de facteurs, effectivement, avec les postiers du 8e plus nous, on était une soixantaine. Malgré ça, on a décidé collectivement de reprendre le travail. Bien qu'il y ait un ou deux collègues qui étaient pour continuer le mouvement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui va continuer le mouvement demain. Mais je crois que c'est parce qu'il y a des trucs à faire. Et moi, après avoir vu la météo et en sachant qu'il va pleuvoir vendredi, j'ai décidé de le continuer aussi jusqu'à vendredi. Et...
Et puis pour maintenir la pression.
Voilà, maintenir la pression, c'est très important. De toute manière, le missile est lancé. Voilà, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que si des gens veulent passer au piquet de grève du 8e, ils peuvent y aller et leur filer du pognon, ils aiment bien. Il y aura aussi.
Mais attends, parce que ça veut dire du coup le 8e, il continue. Ouais. Vous, dans le 2e, vous arrêtez. Est-ce que tu as des nouvelles du 4e et de Dardy?
Alors, le Dardy, c'était un jour symbolique, mais Dardy, on sait que c'est des foudres de guerre. Eux, en général, c'est le bureau connu pour. Y a un souci, ils se mettent tous en grève et ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc, eux, ils ont plus vraiment de revendications. Apparemment, eux, ils ont obtenu, grâce à la lutte, des bonnes conditions de travail. C'était uniquement pour la symbolique du soutien. Voilà. Mm-hmm. Donc, ils ont fait 15 jours. Et. C'était quoi ton question?
Et le 4e?
Ah, et le 4e, apparemment, je sais pas, ils étaient moins nombreux ce matin que hier matin, et je pense qu'ils vont reprendre, mais ce qui les fait chier, c'est un truc plus précis, c'est que eux, ils doivent être rabattus sur nous, sur notre bureau de poste, c'est-à-dire que les postiers du 4e vont devoir partir de Bellecour pour aller distribuer le courrier dans le 4e. Et tout ça en étant censé le faire dans le même temps et en étant payé pareil. Donc c'est-à-dire ils habitent au 4e, ils vont aller à Bellecour pour trier le courrier, ils vont retourner au 4e, le distribuer, et voilà, ils vont faire ça tous les jours.
Et c'est pour ça, il n'y a pas moyen de faire intervenir Cécile Duflot, parce que c'est quand même pas très écologique comme mesure.
On espère qu'ils vont venir à pied quand même. Je sais pas. voilà, après, sinon, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, quand même, on a eu, pour ces 2 jours, un huissier sur notre piquet de grève, quand même.
Un huissier qui venait rien voir, quoi?
Alors, surtout, il tripotait son portable, parce que je pense qu'il se faisait bien chier. Alors, en fait, notre directeur de centre est venu nous présenter un monsieur, il a dit que c'était l'huissier. Cet huissier était censé vérifier qu'on ne fasse pas de pression pour empêcher les collègues de rentrer. Ce qui aurait été difficile, vu que là où on s'était mis, les collègues ne rentraient pas. Pourquoi ? Parce que le directeur de centre avait ouvert une porte par le côté et attrapé les gens qui passaient dans la rue. Parce qu'en général, ils sortent du métro, ils passent sur la porte qu'il a ouverte, dans laquelle ils ne rentrent pas habituellement, et les obligeait à rentrer par cette porte.
Ah ouais.
Voilà.
Et vous n'avez pas déplacé le piquet à un moment ?
Non, nous on n'a pas déplacé le piquet, on avait posé la table, les cafés. Bon. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une question à se poser dans le futur pour effectivement organiser le piquet. En fait, parce que le problème, c'est que si on le déplace, l'autre il va ouvrir la porte où on était avant. Donc il faudrait qu'on soit plus nombreux effectivement pour couvrir 2 entrées.
Ou bloquer une des 2 portes.
Oui. Peut-être. Bon, mais ça, il faut le faire si on est nombreux. Puis moi, je peux pas dire des trucs comme ça. Même si je pense que oui, il faudrait. Après.
L'équipe du camion peut venir bloquer les portes de la poste.
Après, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a quand même à un moment, je pense que j'ai l'impression que moi, j'ai certains de mes collègues. C'est pas pour critiquer, qui ont une énorme capacité à encaisser. Mais il y a quand même le directeur de la poste en France, Jean-Paul Bailly, qui est blindé de thunes, qui a écrit, il y a eu un livre sur lui qui s'appelle Ceux d'en haut, et il parle des employés de la poste. Et il dit par exemple que la poste, elle rend service et elle embauche, et elle a dans ses employés beaucoup de gens inadaptés avec des capacités de travail limitées et qui font des dépressions à répétition.
Oh putain, mais c'est quoi ça?
Connard.
S'il vous plaît, pardon, on se vous voyait jusqu'ici, les messieurs, on reprend.
Voilà, donc.
Genre, il dit ça dans le bouquin, du genre, la poste employeur social qui emploie des cas sociaux, entre guillemets, dans son esprit, c'est ça?
Voilà, on rend service aux cas sociaux, là, nos employés sont un peu des déglingués, ils sont un petit peu nuls, mais nous on leur rend service, on les permet de traîner dans un endroit et de ramasser un salaire.
Juste hyper scandaleux, quoi. Enfin, juste de parler comme ça des gens, enfin...
Eh bien, je te le fais pas dire, c'est hyper scandaleux, surtout quand on entend la revendication du gars de tout à l'heure qui demande à avoir, s'il vous plaît, 2 week-ends par mois. Alors si c'est plus un boulot de feignasse, c'est plus vrai ça.
Et possiblement, malheureusement. Et possiblement, il y a... Oui, c'est pas possible, les gens vont croire que c'est une fausse interview, que tu travailles pas du
non,
tout
non,
à la Poste.
Non, 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 je
ne travaille pas du tout à la Poste.
Si, 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 je travaille à la Poste. Et d'ailleurs, si vous me croyez pas, vous me verrez, je serai au rassemblement vendredi à 14h devant la direction, place Antonin Poncel. Hein.
Et j'aurai une jonquille à la boutonnière.
Ah oui, non, ben, vous aurez qu'à me reconnaître à ma voix, puis c'est vous.
D'ailleurs,
c'est
est-ce que vous appelez à du soutien à ce rassemblement devant la direction vendredi?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, ouais, s'il y a du monde. Voilà. En fait, je sais pas, j'en ai pas discuté de ça avec mes collègues. J'étais déprimé parce que la grève était finie, donc j'ai pas trop discuté du soutien là-dessus. Après, voilà, je voulais finir sur un truc. C'est que, apparemment. Je sais pas trop si. Ouais. Que, apparemment, le. Non, non, si.
Personne t'écoute.
Si, ouais, voilà. Apparemment, notre directeur de centre aurait reçu des menaces. Donc, c'est ce qu'il a fait part de ça, un de mes collègues. Il aurait reçu des menaces, apparemment, de gens qui lui diraient de toute manière, on sait où t'habites, etc., etc. Alors que c'est lui, hein, qui est venu nous menacer avec un huissier, mais. Donc voilà, il aurait reçu des menaces, il aurait engagé un avocat sur le fait qu'un tract a parlé au travail de maltraitance. Et donc lui, il a dit, mais on nous accuse de maltraitance, c'est très grave. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et voilà, et du coup, apparemment, il ne se sent plus en sécurité.
Oh merde!
Il faut qu'il utilise son droit de retrait.
Ouais. Donc oui, votre question, pardon. Est-ce que je lance un appel au calme? Non!
Est-ce que vous lancez un appel au calme?
Mais ça va pas, non! Mais moi, je lance rien du tout, moi! Non, non, mais les gens, ils sont au bout du rouleau. Et en tout cas, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je remercie vraiment les postiers du 8e arrondissement qui nous ont donné qui continuent de nous donner une leçon de courage et une leçon de grève comme on sait pas la faire chez nous, mais on est en train d'apprendre avec eux et voilà, et je pense que bientôt grâce à eux ça va y aller.
Alors peut-être une toute petite dernière question, Francis, un peu plus personnelle là. Votre voix m'évoque légèrement quelque chose. Est-ce que vous ne seriez pas par ailleurs chroniqueur radio?
Oui, ça peut m'arriver de venir par chez vous, mais et effectivement, c'est pas facile parce que j'ai un travail difficile à côté. Et voilà, je cumule deux activités lourdes, aussi bien physiquement que mentalement.
Donc une non rémunérée.
Donc oui, bah laquelle, s'il vous plaît, laquelle? Parce que oui, on n'a pas parlé des rémunérations. Ah bah d'ailleurs, je vais en parler ça. Alors.
Mais d'ailleurs, votre salaire après 10 ans d'ancienneté.
Voilà. Alors mon salaire après 10 ans d'ancienneté, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas que les gens pleurent. J'ai quand même pitié. Mais je voulais rappeler quand même, parce que j'ai vu ça, que donc en 2011, La Poste avait fait 478 milliards d'euros de bénéfices. En 2012, 479 milliards d'euros. Et elle a redistribué au personnel. Parce que c'est du bénéfice net, là, on parle. Hein, bénéfice net. Elle a redistribué,
bon,
bah
donc, sur vous 479
millions d'euros, elle en a redistribué 58.
Quoi? Voilà. Alors, 57 pour Bailly et 1 million à se partager pour les autres ou...
Non, il 58, reste. Ça veut dire que le reste, ça veut dire que si on fait 479 moins 58, ça veut dire que ce qui n'a pas été redistribué, ce qu'on ne sait pas où c'est. Très bien.
421,
tout à fait. Donc voilà. Et en tout cas, moi, donc, je ne sais pas où ils sont. Hein, je suis pas Cahuzac, moi, je sais pas où il est l'argent. En tout cas, ils ne sont pas dans ma poche, c'est ça que je peux vous dire. Et du coup, c'est pas moi qui paye la tournée ce soir. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Francis.
De rien.
Eh ben ouais, merci, Francis.
De rien, de rien.
Eh ben, va falloir enchaîner sur la météo avec tout ça. Alors, eh ben, aujourd'hui, vous avez constaté, c'était l'été.
Ouais.
Ouais, ça fait 5 jours qu'on a eu du beau temps.
Grave.
Et ben voilà.
Ah.
Et ben.
Non, oh, l'oiseau de mauvaise cure.
Attention, la météo, c'est pas pour tout de suite. J'ai moi-même pu constater ce week-end que, quand même, les gens avaient suivi mon conseil et s'étaient rués massivement sur les terrasses des bars et des cafés. Ce qui fait quand même ça fait quand même plusieurs bonnes nouvelles. Bon, la première.
C'est qu'on nous écoute.
Non, la première, c'est pas ça. Ça, c'est la deuxième.
C'est que ça relance la croissance.
Non, c'est que je dis pas n'importe quoi, que mes prévisions étaient les meilleures. La deuxième, c'est que toute l'équipe du Canu Info, vous compris, vous avez passé le week-end à compter le nombre de personnes qui se sont installées en terrasse. Le résultat de ce compte est de 651 735 personnes qui ont décidé de répondre à l'appel lancé par le Canu Info d'envahir les terrasses. 651 735 personnes, c'est 217 fois plus que le nombre de crétins et de crétines qui se sont retrouvés place Bellecour contre le mariage pour tous. Et ça, quand même, c'est plutôt une belle victoire. Et surtout, notre grande surprise a été de découvrir notre Audimat. Et après un savant calcul de ma part, que je garderai secret, on peut en conclure que vous êtes un peu moins d'un million à écouter Radio Canu. On était à deux doigts du million. Mais comme on a une très très légère baisse de qualité des Canu Info du vendredi, les auditeurs et auditrices se détournent sur France Info. Mais quand même, on n'était pas loin du million. Et ça devrait s'améliorer, ça devrait s'améliorer. Quand même, dans tout ça, c'est quand même bien mieux que toutes les autres radios cumulées. Et c'est toujours bon de le rappeler, Radio Canu est une radio sans pub, sans salariés, juste avec plein de gens remplis de motifs qui font tourner la radio pour pas un rond, et ça, c'est quand même plutôt la classe. Bon, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a perdu le privilège d'avoir le président de Radio Canu dans cette émission aux dernières élections du conseil d'administration. Du coup, bah maintenant, faut qu'on se fasse bien voir. Oui, il est à ma gauche, je précise.
Bah non, justement.
Il était à ma gauche. Bon, bah voilà, je sais pas si vous allez être super content de la suite de la météo. Quoi qu'il arrive, gardez bien en tête qu'aujourd'hui il a fait 27 degrés et souvenez-vous de cette sensation de chaleur sur votre visage. Parce que demain, le soleil se voile, le matin on aura 15 degrés et l'après-midi on restera sous la barre des 20 degrés avec un petit 19 degrés. Non. Quelques gouttes de pluie sont à attendre en soirée. Vendredi, ben on se réveillera sous une pluie éparse avec 11 degrés. L'après-midi, le soleil fera de brèves apparitions, mais le risque de pluie sera toujours présent. Il fera 13 degrés au maximum. Samedi, pour les gens qui travaillent, peut-être que vous devriez poser un préavis, parce que là, ça fait mal. 7 degrés le matin sous une grosse pluie, 10 degrés l'après-midi, toujours sous la même pluie. Dimanche, eh ben ça s'améliore. Quelques nuages par-ci par-là, mais un soleil relativement présent avec des températures un peu plus timides. 7 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. La semaine... C'est ça, je vois tout le monde déprimé. La semaine prochaine, la semaine dernière, vous n'aviez pas cette tête. Hein, vous allez l'air plutôt content et contente. Mais la semaine prochaine, eh ben, lundi, eh ben, c'est quasiment presque pareil que dimanche. Et mardi et mercredi, bon, ça aura plutôt tendance à s'améliorer. Les températures remonteront légèrement jusqu'à 23 degrés. C'est quand même pas mal. On est au printemps, on n'est pas en été quand même. Je le rappelle. Et le soleil sera plutôt présent. A priori, pas trop de nuages devraient pointer leur bout de leur nez. Du coup, tenez bon, une petite baisse de régime du côté de la météo, mais ça devrait repartir. Voilà, c'est fini.
Ok, ça tombe bien, dis donc. C'est l'heure pile de lâcher l'antenne.
Dans 40 secondes, il est 20h.
Et
bonne soirée.
Bonne soirée avec Idée Noire, l'émission de la CGA. Ciao.
Au revoir.